Vous écoutez, on lit pour vous.
Aider pour s'aider. Un texte de Raphaël Miro, paru le 26 décembre 2024 dans la presse. Dans un salon décoré de guirlandes et de casse-noisettes, une petite tablée s'esclaffe en essayant de former des mots au Scrabble. D'un côté du plateau, Jean-Michel et Thomas, deux cinquantenaires qui vivent avec des handicaps moteurs et intellectuels. De l'autre, Ahmed, un jeune qui, il y a quelques semaines, était en situation de décrochage scolaire. Nous sommes à la maison d'accueil Clément Wirtz, une résidence pour personnes lourdement handicapées du 13e arrondissement de Paris. Une trentaine de personnes habitent dans cet établissement, la plupart après avoir perdu leur autonomie à cause d'un accident grave. En plus de la dizaine d'employés qui travaillent ici, les résidents de la maison peuvent compter depuis quelques semaines sur l'aide d'Ahmed Farag et de Léane Gagliano, deux jeunes de 16 et de 21 ans. Toute la journée, ceux-ci s'affairent à animer des activités, à aider les résidents à se déplacer et surtout à longuement discuter avec eux. Ils viennent pour s'occuper de nous. Ils sont très gentils, confie Thomas, le visage plein de reconnaissance. Ahmed et Léane ne sont pas des employés ni des bénévoles, mais des volontaires du service civique. Ce programme, créé en 2010 par le gouvernement français, permet aux 16 à 25 ans de s'engager pendant 6 à 12 mois auprès d'un organisme public ou caritatif payé par l'État. Aider les jeunes dans une impasse. Si les résidents de la maison Clément Wirtz sont bien contents de pouvoir compter sur la présence d'Ahmed et de Léane, c'est surtout à ces derniers que ce système s'adresse. Le service civique a été créé, entre autres, pour donner une occasion aux jeunes qui font face à un imprévu ou à une impasse. Léane, par exemple, vient de finir une licence, l'équivalent d'un baccalauréat au Québec, en psychologie, mais était refusée l'été dernier dans tous les programmes de maîtrise permettant de pratiquer. Si je n'avais pas fait mon service civique cette année, je pense que j'aurais dû faire un job alimentaire. Je me serais probablement éloigné de mon objectif. Finalement, j'ai le temps de préparer mon retour aux études et j'ai une expérience à faire valoir pour la suite. Léane Gagliano, 21 ans. Quant à Ahmed, il vient d'un milieu défavorisé et était, il y a quelques mois à peine, en plein décrochage scolaire. C'est son école qui l'a repéré et qui lui a proposé de faire un service civique à temps partiel avec 10 camarades de classe. Il consacre 3 jours par semaine au service civique et revient à l'école le jeudi et le vendredi. Depuis que j'ai commencé, je sens que je suis plus motivé à aller en cours, alors qu'avant, je n'y allais plus du tout, affirme-t-il. L'un des objectifs du programme est d'être le plus possible à la portée de tous, peu importe la formation. Au moment des entrevues, on n'a pas le droit de demander un CV ou de poser des questions sur l'expérience professionnelle, explique Flora Béraud, tutrice d'Ahmed et de Léane au sein de l'organisme Unicité. Ce qui compte, c'est uniquement la motivation. Le service civique fait toutefois l'objet de critiques. Les jeunes reçoivent une indemnité d'environ 600 euros, 900 dollars par mois, bien en dessous du salaire minimum, qui est pris en charge à 80 % par l'État. Certaines associations sont accusées d'en profiter pour embaucher des jeunes à bas prix, en formant à peine les jeunes alors que c'est obligatoire, déplore Flora Béraud. Chez Unicité, Ahmed et Léane participent chaque semaine à des ateliers de formation sur la psychologie ou le milieu associatif. Créer des vocations. Ahmed et Léane ont choisi de faire leur service civique auprès de personnes handicapées, mais il est possible de choisir tout un éventail d'engagements différents. Certains jeunes passent par exemple leur service civique à faire de la sensibilisation à des causes environnementales ou encore participent à la sauvegarde du patrimoine. L'un des programmes les plus populaires est le Service civique Solidarité Senior, qui permet de s'engager auprès des personnes âgées. Ça m'a confirmé que je voulais travailler dans le milieu du soin, explique Julie Schlitter, une volontaire engagée pour 8 mois dans une résidence pour personnes âgées du 16e arrondissement. Il n'est pas rare que des volontaires trouvent ainsi leur vocation pendant leur engagement. Honnêtement, je ne sais pas si je vais continuer l'école après le lycée, avoue Ahmed en animant depuis le comptoir de la cuisine la pause café, l'un de ses moments préférés avec les résidents. Mais maintenant, je crois bien que je voudrais continuer de travailler dans une résidence comme celle-ci. C'était « Aider pour s'aider », un texte de Pierre-Olivier Poulain, paru le 8 décembre 2024 dans Le Quotidien.
Le multilinguisme pour réduire certains signes de l'autisme? Un texte de Cassandre Rogeret, paru le 13 janvier 2025 dans handicap.fr. Non, le multilinguisme ne favorise pas un retard de développement, bien au contraire. Parler plusieurs langues améliorerait les capacités cognitives des enfants avec autisme tout en permettant de réduire certains signes, selon une récente étude. Le bilinguisme, une clé pour améliorer les fonctions cognitives des enfants avec autisme? C'est ce que révèle une nouvelle étude d'UCLA Health, publiée dans la revue Autism Research en novembre 2024. Parler plusieurs langues permettrait également de réduire certains signes de ce trouble du neurodéveloppement qui se caractérise par des difficultés dans les interactions sociales et la communication, ainsi que par des comportements et intérêts à caractère restreint, répétitifs et stéréotypés. Environ 700 000 Français, dont 100 000 âgés de moins de 20 ans, sont concernés. Les parents évaluent l'inhibition, la mémoire, les comportements répétitifs. Menée initialement à l'Université de Miami, l'étude a recruté 100 enfants autistes et valides, âgés de 7 à 12 ans, provenant de ménages monolingues et multilingues, qui parlaient principalement espagnol et anglais à la maison. Les parents ou tuteurs ont été invités à évaluer les « fonctions exécutives » de leur enfant, souvent affectées par les troubles du spectre autistique, TSA, comme l'inhibition, la capacité de supprimer une activité non pertinente ou de se distraire, la mémoire de travail, garder quelque chose à l'esprit comme se souvenir d'un numéro de téléphone et le fait de passer d'une tâche à une autre comme s'amuser avec ses jouets puis nettoyer. Les parents ont également effectué les évaluations suivantes. Le quotient d'empathie des enfants, EQ-C, conçu pour évaluer les compétences de prise de vue. Le questionnaire de communication sociale, SCQ, ainsi que l'échelle de comportement répétitif révisé, RBS-R. Des capacités renforcées, en particulier chez les enfants autistes. Verdict, citation, le multilinguisme est associé à de meilleures compétences en matière d'inhibition, de changement et de prise de perspective. Fin de citation, a fortiori chez les enfants avec autisme. Citation, si vous jonglez avec deux langues, vous devez supprimer l'une afin d'utiliser l'autre. Cette pratique renforce le contrôle mental. Fin de citation, explique Lucina Q. Udin, l'une des auteurs principales de l'étude. Selon elle, parler plusieurs langues a également permis d'améliorer la communication et de réduire certains comportements répétitifs. Pour résumer, ces jeunes parviennent à mieux gérer leurs pensées, à être plus empathiques et à adapter leur comportement en fonction des situations. Citation, ces résultats sont les premiers à notre connaissance à démontrer des liens potentiels en cascade entre l'expérience multilingue, l'EF, note de la rédaction, capacité de la fonction exécutive, et les symptômes de base du TSA. Fin de citation, indiquent les chercheurs. Aucun effet négatif à parler plusieurs langues. Cette étude permet ainsi de briser les idées reçues. Parenthèse, autisme, être bilingue peut-il compliquer la donne? Fin de parenthèse. Citation, Les parents craignent souvent que les expériences multilingues puissent contribuer à d'autres retards dans le développement cognitif et du langage de leur enfant porteur de TSA, observent les scientifiques. Après le diagnostic, les enfants multilingues connaissent une réduction rapide de l'apport de leur langue maternelle, même si son utilisation persiste dans les interactions adulte-adulte et adulte-frère et sœur. Fin de citation. Citation. Nous ne voyons aucun effet négatif à parler plusieurs langues à la maison, insiste Lucina Q. Udin. Il est en fait bénéfique de célébrer toutes les langues associées à votre culture. Fin de citation. Une prochaine étude en perspective. Toutefois, citation, la généralisation des résultats de l'étude actuelle doit être abordée avec prudence, notamment car les données reflètent principalement les expériences des familles de Miami, une ville bilingue où 75,1% de la population parle une langue autre que l'anglais à la maison, en majorité l'espagnol. Fin de citation, admettent les chercheurs qui souhaitent désormais élargir l'étude. La prochaine analysera environ 150 enfants autistes et comprendra plus de tests de fonction exécutive et de langage, ainsi que l'imagerie cérébrale. C'était « Le multilinguisme pour réduire certains signes de l'autisme », un texte de Cassandre Rogeret, paru le 13 janvier 2025 dans handicap.fr.
Le traitement miracle d'un enfant malade, compromis par l'exclusion québécoise des traitements contre l'obésité, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 11 janvier 2025 dans Le Devoir. Le Québec refuse d'inclure dans son régime de couverture publique un traitement qui s'avère nécessaire pour éviter une mort précoce à un enfant de Bellechasse aux prises avec une maladie génétique rare. Malgré des prières adressées au ministre de la Santé, Christian Dubé, l'État refuse toujours de réviser sa position sous prétexte que le médicament sert avant tout à lutter contre l'obésité, une indication que la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, écarte d'emblée. Xavier Renaud, 12 ans, n'a jamais connu une enfance normale. Les 6 premiers mois de sa vie, il les a presque entièrement passés au CHUL de Québec, hospitalisé pour un mal extrêmement rare, une déficience en PCSK1, un trouble génétique diagnostiqué selon la NORD, National Organization for Rare Disorders, une organisation américaine qui s'intéresse aux maladies rares, chez moins de 50 personnes dans le monde. Juste pour vous donner une idée, ça nous a coûté 1 000 $ de stationnement la première année, explique sa mère, Isabelle Asselin. Les va-et-vient entre les 9 médecins spécialistes qui accompagnent Xavier continuent de ponctuer la vie du garçon, de ses parents et de ses 3 grandes sœurs, à raison d'une 20aine de rendez-vous à l'hôpital par année. Le déficit en PCSK1 entraîne différents troubles hormonaux et inhibe, entre autres, la fonction neurologique qui procure à l'organisme la sensation de satiété. Non seulement Xavier éprouve le besoin constant de manger, mais son corps entrepose les calories ingérées au lieu de les convertir en énergie. Ça veut dire que la nourriture qui rentre dans le corps, elle n'est pas brûlée, elle n'est pas utilisée, explique le docteur Nabil Seyda, directeur de l'unité de recherche en biochimie neuro-endocrinienne à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Ça veut aussi dire que ce jeune homme-là n'a pas d'insuline et devient donc sujet à développer le diabète. PCSK1 entre aussi en jeu dans la sécrétion de l'hormone de croissance. Si le gène ne remplit pas ses fonctions, la personne risque d'être de petite taille. Xavier éprouve tous les symptômes de ce trouble génétique. Il souffre d'hyperphagie, d'une obésité importante, d'une léthargie sévère et de troubles de croissance depuis son plus jeune âge. à 11 ans, son corps d'enfant pesait 130 kilos. Impossible pour lui de se déplacer normalement. Une simple marche relevait de l'exploit. La fatigue compromettait aussi l'éducation de Xavier. Ils nous ont parlé à un moment donné de l'envoyer dans une classe spéciale, explique son père, Jean-François Renaud. Non pas parce qu'il souffre d'une déficience, Xavier est premier de classe, mais parce que son manque d'énergie l'empêchait de suivre les autres. Le diabète commençait aussi à apparaître et le foie de Xavier se dégradait rapidement. Ça se développait vers la cirrhose ou le cancer, poursuit son père. Cette détérioration de l'organe menait à deux issues, la greffe d'un nouveau foie ou la mort. Un petit miracle à gros prix. La maladie de Xavier échappait à tout espoir de rémission avant juin dernier, et l'arrivée d'Imcivrie et de son ingrédient médicinal, la stethmélanotide, dans la vie du garçon. 6 mois de ce traitement homologué en 2023 par Santé Canada ont réussi à rétablir son foie, à éliminer son diabète, à redémarrer sa croissance et à amorcer une importante perte de poids. « J'ai beaucoup plus d'énergie qu'avant, » souligne Xavier. « J'ai un ami qui habite, bon, il n'est pas très loin, mais j'ai quand même réussi à marcher de ma maison jusque là-bas. » Cet été, c'était aussi le 200e de Sainte-Claire. J'ai pu sortir en cachette et me rendre à l'église pour faire une surprise à ma mère. Une promenade d'un kilomètre, encore impensable, il y a à peine 6 mois. « Ça ne fait aucun doute », raconte Marie-Claude Simard, directrice de l'école primaire Morissette. « Depuis l'automne, Xavier a maigri, il se déplace plus facilement, il est moins essoufflé, et c'est un petit garçon plus souriant. » Ce médicament, c'est un petit miracle, illustre le père du garçon, Jean-François. C'est la première fois depuis la naissance de Xavier, ajoute sa mère Isabelle, que nous avons un remède qui n'apporte que du positif. L'horizon du garçon se dégage enfin. Mais il pourrait se boucher à nouveau dans 3 mois, car le miracle se paie à prix fort. Près d'un demi-million de dollars par année que le Québec, en raison des règles en vigueur à la RAMQ, n'envisage pas de rembourser. Exception québécoise. Au Canada, le Québec est la seule province à exclure d'emblée l'étude des traitements contre l'obésité en vue d'une inclusion dans le régime de couverture publique. Or, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux, INES, responsable d'évaluer des demandes d'inscription de médicaments dans le but de faire des recommandations au ministre, range Imcivrie et la stethmélanotide dans cette catégorie, aux grandes dames des sommités mondiales en la matière. Le message à donner aux instances régulatrices qui ne connaissent pas ces maladies rares, c'est que la stethmélanotide est indiquée pour les obésités génétiques, soutient la docteure Karine Clément, docteur en médecine et directrice de Nutriomic, une unité de recherche à l'Université Sorbonne et à l'INSERM, spécialisée en physiopathologie de l'obésité. Ce n'est pas seulement un médicament pour la perte de poids, mais bien un médicament qui agit sur le comportement alimentaire et la faim biologique irrépressible que ressentent ces patients. On ne peut pas faire d'amalgame avec l'Ozempic, qui a un mécanisme d'action différent. L'INES refuse de même étudier le dossier de l'Imcivrie en raison de la politique d'exclusion en vigueur au Québec. Ailleurs au Canada, pourtant, des provinces remboursent déjà la stethmélanotide. Pourquoi au Québec nous ne changeons pas ça? S'interroge Isabelle. Est-ce qu'il faut déménager pour que mon fils ait le droit de vivre? une pétition déposée à l'Assemblée nationale à l'automne 2024 et parrainée par le Parti libéral demandait au gouvernement de réviser la politique québécoise pour permettre l'inclusion de traitements contre l'obésité dans le régime public. La coalition Avenir Québec a montré une certaine ouverture et compte lancer un projet pilote pour évaluer l'efficacité de ces médicaments. À la demande du ministère de la Santé, l'INES a réalisé un document qui préconise l'étude de 4 des 5 molécules contre l'obésité approuvées par Santé Canada. La seule que l'INES exclut de ses recommandations, la 7-mélanotide. Ce médicament concerne une petite niche de personnes vivant avec l'obésité génétique dépendante, précise l'INES au Devoir, ce qui ne correspondait pas au contexte du projet pilote envisagé et de sa clientèle visée. L'Institut ajoute néanmoins que le ministère de la Santé a tout à fait la possibilité de choisir d'inclure dans un projet pilote ce produit ou d'autres produits actuels ou à venir. Silence du ministre de la Santé. La pédiatre endocrinologue du CHUL, qui accompagne depuis longtemps Xavier, la docteure Julie Gagné, a écrit au ministre de la Santé pour l'implorer d'inclure Imcivree dans le régime d'assurance médicaments du Québec. Il existe un traitement efficace pour la maladie sévère de Xavier, a-t-elle écrit au ministre le 16 septembre dernier, en soulignant que la générosité de la société pharmaceutique américaine prendrait fin d'ici quelques mois. Il y a donc urgence pour Xavier, faisait valoir la docteure Gagné, car sans la 7-mélanotide, son pronostic vital est en jeu. La docteure Gagné soulignait aussi que le coût du traitement n'incomberait pas à l'État, puisque les assurances privées du père de Xavier pouvaient l'acquitter. La médecin exposait toutefois l'absurdité de la situation en soulignant que la compagnie d'assurance du patient refuse la couverture d'Imcivree, étant donné l'absence de couverture de la RAMQ. Au nom du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, nous accusons réception de votre courriel, répondait le cabinet le lendemain. Nous vous assurons qu'un suivi approprié sera porté à votre correspondance. Xavier, sa docteure et sa famille attendent la suite depuis 116 jours. C'était le traitement miracle d'un enfant malade compromis par l'exclusion québécoise des traitements contre l'obésité, un texte de Sébastien Tanguay, paru le 11 janvier 2025 dans Le Devoir.
Je ne veux pas être mise dans une case. Un texte d'Édith Lemurie-Frenette, paru le 3 janvier 2024 dans la presse. Je suis autiste à haut niveau de fonctionnement. Mon raisonnement de base me pousserait à le dire pour faire avancer les mentalités. Par contre, plusieurs facteurs peuvent inciter les personnes concernées à ne pas parler de leur handicap. La peur de se voir accoler une étiquette nous amène souvent à le taire. D'emblée, la méconnaissance de l'autisme ou les comportements stéréotypés qui y sont associés pourrait laisser croire aux gens que j'ai une déficience intellectuelle. Ils pourraient donc profiter de ma personne. Autrement dit, certains, une fois au fait de ma condition, pourraient être tentés de se positionner au-dessus de moi ou de mes compétences, croyant à tort que je suis diminué dans cette sphère. Ce qui est à la fois blessant, faux et totalement inconvenant. D'autre part, en taisant mon handicap, je risque tout de même de me voir attribuer une étiquette de personne spéciale, en marge, originale ou bizarre. Donc, dans les deux cas, le risque que la société me place dans une case demeure grand. Ensuite, il est rassurant de penser que de pouvoir nommer notre condition nous permettrait de vivre dans un environnement plus inclusif. Comme je suis drainé par les ambiances, Les bruits forts, les lumières vives, le chaos, les imprévus, mon milieu me proposerait de mettre en place des bases plus protectrices et apaisantes dans lesquelles je pourrais évoluer sainement et en respectant mes besoins. Mais ces adaptations, qui se doivent d'être permanentes dans un milieu de travail, ne sont pas toujours compatibles avec les systèmes déjà en place. L'épuisement qui nous guette. Ayant passé les 40 premières années de ma vie à m'adapter aux autres, à faire fi de mes besoins, il est plus naturel pour moi de continuer à avancer jusqu'à l'épuisement en tentant de fonctionner comme tout le monde. Parce que quand un cerveau autiste se donne au travail, la quantité de choses qui se voient accomplies est bien souvent impressionnante aux yeux des collègues qui ont tout avantage à nous laisser aller au bout de nous-mêmes pour le bien de l'entreprise. C'est un cercle vicieux d'épuisement qui est très familier aux autistes à haut niveau de fonctionnement. Donc, la mise en place des adaptations nécessaires repose bien souvent entièrement sur nos épaules et notre fatigue en société nous freine à les maintenir vivantes. Finalement, nommer notre condition peut devenir une lame à double tranchant. En s'affichant comme étant une personne avec des difficultés sur le plan de la communication, cela peut nous placer dans des situations perdantes. Si j'affirme qu'une parole à mon égard m'a blessé, on risque de diminuer mon impression en soutenant que j'ai probablement mal compris ce qu'on voulait me dire. Si, au contraire, une remarque déclenche un inconfort chez mon interlocuteur, encore une fois, ce sera fort probablement moi qui serai montré du doigt en sous-entendant que je ne sais pas comment bien m'exprimer. Cela nous place dans un état d'hypervigilance perpétuelle. Nous nous mettons une pression incroyable pour bien évoluer en société. Bien souvent, les gens n'ont aucune idée de toute l'énergie déployée seulement pour être à leur côté. Ils ignorent que chaque événement social, même heureux, nous demande d'affronter plusieurs stimuli exigeants et contraignants. Au bout du compte, je crois qu'il est impératif de nommer notre différence pour faire avancer les mentalités pour que la société devienne de plus en plus inclusive. Après tout, nous, les autistes à haut niveau de fonctionnement, y œuvrons depuis toujours et nous pourrions devenir encore plus utiles et épanouis moyennant certains petits changements permanents qui profiteraient certainement à tous. C'était « Je ne veux pas être mise dans une case », un texte d'Édith Lemery-Frenette, paru le 3 janvier 2024 dans La Presse.